Vous le savez comme moi, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et la vie dans le service de Dieu n'est pas un long fleuve tranquille. En 2014, j'ai vécu les 10 jours les plus difficiles de ma vie. Parce qu'à l'église de Pau, on a vécu le suicide d'un homme de 65 ans, un pilier de l'Église, un chrétien affermi, un kinésithérapeute nouvellement à la retraite. Et après 6 mois de dépression profonde, où je l'avais accompagné, j'allais le voir toutes les semaines, cet ami est rentré dans une clinique spécialisée. Et tous les espoirs étaient permis. Le directeur de la clinique avait dit « Cette dépression, je m'en charge. » Et on le croyait en sécurité et en voie de guérison. Et puis, un jour, pris par la spirale mortifère de la dépression, il a mis fin à ses jours dans sa chambre d'hôpital, profitant en échappant à la surveillance des infirmières. J'ai accompagné alors la famille qui venait de toute la France et tous les amis des églises libres, parce qu'il était bien connu des églises libres, pendant quelques jours, pendant plusieurs jours. Et ça a été très très difficile parce que moi, j'étais moi-même très affecté, comme toute l'église de Pau. J'étais peut-être même plus affecté que lors de la mort de mon propre père, mort à 65 ans aussi, au même âge, mais dans des circonstances très différentes. En 2014, c'était en 96, la mort de mon père. En 2014, c'était très différent. Mais le dimanche après les funérailles, à la fin de ce mois de juin 2014, le texte de la prédication était sur 1 Corinthiens 15. Et je l'ai intitulé « Quand la vie gagne la partie ». Et cela nous a permis, à l'Église et à moi, de sortir un petit peu la tête de l'eau, sortir un peu des ténèbres. Et nous lisons la grande finale, 1 Corinthiens 15, de ce livre, de cette lettre que Paul a écrite aux chrétiens qui sont à Corinthe. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors se trouvera réalisée cette parole de l'Écriture. La victoire totale sur la mort a été remportée. Ô mort, qu'est devenue ta victoire? Ô mort, où est ton dard? Le dard de la mort, c'est le péché, et le péché tire sa force de la loi. Mais loué soit Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, soyez fermes, ne vous laissez pas ébranler. Travaillez sans relâche pour le Seigneur, sachant que la peine que vous vous donnez au service du Seigneur n'est pas inutile ou vaine. Et nous terminons aujourd'hui notre série sur l'épître de Paul aux Corinthiens, écrite dans les années 50, 56, 57, après Jésus-Christ, évidemment. Et on a couvert pas mal de sujets. On a parlé de ce sujet de la sainteté, le sujet de peut-on manger de la viande sacrifiée aux idoles? Peut-on que faire de son corps, le mariage, la discipline, comment se faire tout à tous, les dons spirituels, l'amour pour 1 Corinthiens 13? Et nous terminons avec ce magnifique chapitre 15 qui nous parle de résurrection. Alors on pourrait s'étonner de voir que la résurrection vient terminer cette épître. Souvenez-vous, Paul est plutôt en train de traiter les affaires de comportement pour ces chrétiens de Corinthe. Comment vivre l'évangile dans une vie de Corinthien? À l'époque, nouvellement converti, Jésus est mort et ressuscité il y a à peine 20 ou 30 ans. Comment, et j'avais pris cette publicité du siècle dernier pour la Twingo, j'ai vérifié, c'était la Twingo, comment inventer la vie qui va avec? Vous ne le voyez pas? Si, à nous, à vous d'inventer la vie qui va avec. Et donc pour les Corinthiens, à vous d'inventer la vie chrétienne qui va avec l'Évangile. Mais si Paul parle, pour terminer sa lettre, de la résurrection, c'est qu'elle fait partie justement de cet Évangile pour lequel les chrétiens doivent inventer la vie qui va avec. Il y a, oui, la mort de Jésus, et Paul le dit au début de l'épître, « Je n'ai rien voulu savoir parmi vous que Jésus-Christ crucifié, la centralité de la croix, le lieu de tous les possibles. » Ce qu'il veut prêcher, c'est la croix qui est une folie pour les Grecs, vous vous souvenez, et un scandale pour les Juifs. Il prêche la croix, mais il dit aussi au chapitre 15, notre chapitre là, si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est nulle et non avenue, est vaine. La résurrection fait partie intégrante de l'Évangile et il le rappelle au début du chapitre, mes frères, le chapitre 15, je vous rappelle la bonne nouvelle, l'Évangile. Evangelion, que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et à laquelle vous demeurez attaché, cette bonne nouvelle. Je vous ai transmis comme un enseignement de première importance, c'est l'Évangile. Ce que j'avais moi-même reçu, le Christ est mort pour nos péchés, à la croix, conformément aux Écritures. Mais aussi, il a été mis au tombeau, il est ressuscité le troisième jour. La résurrection fait partie de l'Évangile. Nous prêchons un Christ crucifié et ressuscité, il faut le dire. Et vous savez, on fête, il est passé un petit peu rapidement, on fête le 1700e anniversaire du Concile de Nicée. Le Concile, c'est une réunion de tous les pontes, de tous les théologiens. Et en 325, il y avait des troubles dans l'Église, il y avait des problèmes théologiques, surtout sur la nature de Christ. Ils se réunissent et puis ils mettent des choses dans le... Ils mettent une confession de foi avec Athanase, etc. Et vous avez reçu un petit signet, et ça date du 19 janvier, mais vous voyez le Concile et Athanase au milieu. Et ils parlent de la résurrection et ils reprennent le texte d'1 Corinthiens 15. Il est ressuscité le troisième jour conformément aux Écritures. La résurrection fait partie de l'Évangile. La résurrection est le fondement qui doit orienter toute la vie du chrétien, il fallait le dire, parce que à Corinthe, il y a un milieu ambiant, un contexte où la résurrection pouvait être contesté ou relativisé. Il y avait d'abord les épicuriens qui disaient que comme tout s'arrêtait à la mort, il fallait profiter de la vie, fallait manger, boire, danser, faire la fête, et il fallait ou faire autre chose, mais il fallait tirer le meilleur profit, en tirer le meilleur parti de cette vie. Et vous voyez qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On a des épicuriens, il y a des épicuriens dans le monde. Alors, quand on dit épicuriens, ça ne veut pas dire qu'ils se vautrent tous dans la débauche. Non, ils sont souvent très sympathiques. Et là, je m'avance, mais moi, j'aime bien Philippe Catherine. Il est sympa, il est cool. Mais c'est l'exemple parfait de l'épicurien, tout en bleu, Bacchus, là, etc. Et puis, il y a les platoniciens. Le corps et le tombeau de l'âme, elle seule, est immortelle. L'âme seule, l'esprit, le nous, est immortel, et le corps, lui, est appelé à disparaître. Il n'a aucune valeur aux yeux de Dieu. Et l'Église chrétienne, a même pu être influencée par cette pensée de la philosophie grecque quand on parle de l'immortalité de l'âme. Vous avez déjà entendu ça. Peut-être même que vous souscrivez à ça. Mais le problème, c'est que l'immortalité de l'âme, qui est vraie, c'est une expression très ambiguë, car elle semble exclure le corps de l'immortalité, de cette histoire d'immortalité, alors que Dieu, dans sa parole, donne de la valeur au corps. Et on l'a vu au chapitre 6 de 1 Corinthiens, le corps a ses raisons. Le corps est important. Le corps a de la valeur aux yeux de Dieu. Dieu a un projet pour notre corps. Et la résurrection est corporelle. Et puis le dernier groupe, il y a les groupes qui me semblent le plus insidieux peut-être. Le groupe des spiritualistes qui poussent encore plus loin le mépris du corps. Le corps est tellement, à l'époque, est tellement mauvais qu'il n'a pas pu être créé par Dieu et donc il faudrait s'en détacher par toutes sortes d'exercices spirituels en parvenant à une meilleure connaissance des choses cachées pour le commun des mortels, les fameux mystères. C'est le genre franc-maçon un peu. Avec des rites initiatiques, là, un truc mystérieux, une élite. Et pour eux, la résurrection est purement spirituelle. Et dans l'environnement de Corinthe, ils disaient, la résurrection a déjà eu lieu. Elle est purement spirituelle. Donc, voyez, les trois courants de pensée, et on pourrait peut-être s'y retrouver, n'est-ce pas? Rien n'a changé sous le soleil, comme dirait l'Ecclésiaste. Et donc, parce que les chrétiens de Corinthe pouvaient être sous l'influence de l'un ou l'autre de ces courants de pensée, comme nous pouvons l'être, Paul va consacrer tout ce chapitre à parler de la résurrection. Elle fait partie de la bonne nouvelle. Pour inventer la vie chrétienne qui va avec l'Évangile, les Corinthiens ont besoin de l'intégrer dans leur vie, la résurrection. Tout simplement parce qu'ils ont besoin d'elle pour vivre cette vie chrétienne. Et dans tout le chapitre 15, donc, Paul va développer la bonne nouvelle de la résurrection en deux temps, quatre mouvements. Dans la première partie, il va insister sur le côté véridique et historique de la résurrection. Pas une résurrection spirituelle, une résurrection vraie de vraie. Le Christ est vraiment ressuscité, il a été vu, il est apparu à plus de 500 personnes à la fois. Ce n'est pas un fait à mettre au conditionnel, Jésus serait ressuscité. Non, ce n'est pas simplement plausible, possible ou probable. Non, pour Paul en tout cas, c'est un fait avéré. Il y a des témoins oculaires qui sont encore vivants et qui peuvent, à l'époque, et qui peuvent témoigner de cela. C'est pas une rumeur. C'est pas une désinformation, c'est pas une fake news pour alimenter les réseaux sociaux de l'époque, c'est vrai. Et ça l'est dans la réalité concrète et historique. Alors on peut toujours douter comme Thomas, et Daddy nous a parlé du doute. Oui, le doute est toujours permis. Mais Thomas, il a eu la présence d'esprit devant l'évidence de se mettre à genoux devant Jésus et dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et puis, dans un second temps, Paul va développer une argumentation par le vide. Et je l'aime bien, cette argumentation. Pendant tout un temps, j'ai intitulé « Argumentation par l'absurde ». Un petit peu comme 1 Corinthiens 13. Si j'avais la foi pour déplacer les montagnes, si je n'ai pas l'amour, c'est un peu par l'absurde ou l'excès. Et là, c'est une argumentation par le vide. Et il le dit, si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication n'a plus de contenu, elle est vide, et notre foi est sans objet, elle est vaine. C'est vain, c'est vide. Comme le dit le livre de l'Ecclésiaste, « Vanité des vanités, tout est vanité et poursuite du vent. » Si Christ n'est pas ressuscité, tout ce qu'on fait ici, ce n'est que du vent. Si Christ n'est pas ressuscité, moi je prends mes clics et mes claques, et je vais travailler dans le bien-être. Ça, ça marche mieux. Ça. Si Christ n'est pas ressuscité, cette phrase, « Nous sommes encore dans nos péchés », ça veut dire que rien n'est résolu, qu'il n'y a aucune perspective. Et il ajoute au verset 19, « Si c'est seulement pour la vie présente que nous avons mis notre espérance dans le Christ, nous sommes les plus à plaindre des hommes. » On est les plus tristes de tous les hommes. On est des nuls. Si Christ n'est pas ressuscité, la vie est vide, la vie est nulle et on est nul. Et j'aime cette argumentation par le vide. Mais il faut noter quelque chose, c'est que la résurrection de Jésus n'a pas été inventée pour que les chrétiens soient moins tristes ou que leur foi ne soit pas vide. La résurrection est un fait réel et pour cette raison, la foi n'est pas vide. Et la foi a tout son sens. Et la bonne nouvelle est vraiment une bonne nouvelle. Le chrétien peut vivre dans l'espérance parce que Christ est vraiment ressuscité. Mais en réalité, en vérité, Christ est bien revenu à la vie. Et la troisième partie, Paul tire les conséquences de la résurrection de Jésus. C'est pas juste un fait historique isolé. Mais puisque Christ est ressuscité, nous le serons aussi. La résurrection de Christ précède la nôtre. Et le texte dans la Bible parle des prémices qu'on a traduit les premiers fruits. Le fruit, Christ est ressuscité. Il est comme ces premiers fruits qui annoncent la récolte, qui annoncent ma résurrection, la tienne, la nôtre. Et la certitude de notre résurrection se base sur la conviction que la résurrection de Christ a bien eu lieu. Et vous savez, moi, d'une manière toute personnelle, quand des doutes, et Yvonne le partage avec moi, quand il y a des doutes qui s'installent, comme pour beaucoup dans notre vie, à quoi bon est-ce que c'est... On repense à la résurrection de Jésus. Le tombeau était vide. Il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant, dit le messager à ces deux femmes apeurées, effrayées, comme dit l'évangile de Luc, et qui regardent au sol, c'est dans le texte. Elles sont toutes effrayées, elles regardent dans le sol, effrayées de cette vie vide qui se présente à elles, effrayées de cette absence. Pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant ? Alors, dans le passage qui suit, après, quatrième passage, il est un peu compliqué parce que Paul va répondre aux questions que se posent les Corinthiens. La résurrection, oui, mais avec quel corps ? Le corps d'un jeune ? Le corps d'un vieux ? Moi, je préférais mon corps de 19 ans et demi. Là, j'étais bien. Et qui s'interrogent et qui se disent, en s'interrogeant, que la résurrection est tout à fait inconcevable. Ça n'a pas de sens, dit-il. Et Paul va leur répondre par un cinglant insensé. Vous manquez de sens. Regardez la nature. Une graine que vous semez ne peut reprendre vie qu'après être passée par la mort. Et puis, surtout, la graine que vous semez est différente de ce qui en résulte. La graine de blé ne correspond pas, ne ressemble pas à l'épi. C'est très différent, c'est tout autre, et pourtant, c'est du blé. C'est du blé, mais c'est pas tout à fait pareil. Et il en va de même avec la résurrection. Le corps que nous avons lorsque nous ressusciterons, que nous aurons lorsque nous ressusciterons, n'aura pas grand-chose à voir avec le corps que nous avons sur cette terre, et pourtant, ce sera nous. Ce sera moi, ce sera toi. Nous serons identifiables. Nous aurons notre identité, notre personnalité. On se reconnaîtra au ciel, même si on sera différent. Et quand on regarde la nature, et même si on n'est pas des plantes, la résurrection n'est pas si inconcevable que cela. Et en plus, comme le signale à la fois l'image de la plante qui germe dans la main, là, comme vous voyez, et ça fait penser à cette main de Dieu, au verset 19 qui dit « Il fait vivre ou revivre ». Il y a la main de Dieu derrière tout cela, c'est lui qui fait vivre la plante, qui fait naître le petit grain de blé qui meurt pour une vie nouvelle. Enfin, le dernier passage qui nous parle de la résurrection et que nous avons lu tout à l'heure, et qui nous parle de cette victoire. Bon, On l'a lu tout à l'heure, donc c'est pas grave. Mais je répète, la victoire totale sur la mort a été remportée. Ô mort, qu'est devenue ta victoire ? Ô mort, où est ton dard ? La victoire totale. Une victoire d'abord sur le péché, sur le mal. Ce mal qui nous fait mal. Ce mal qui nous rend nuls. Ce mal qui nous fait regretter plein de choses. Qui empoisonne notre existence et celle des autres. Le péché est un dard, un aiguillon, mais vraiment un dard qui inocule son poison qui mène à la mort. Mais Christ est mort pour prendre sur lui la morsure du mal. Dans une voiture, peut-être une Twingo, le papa conduit, la petite fille est derrière, et il y a une guêpe dans l'habitacle. Elle tournoie, la fille a peur. Papa, il y a une guêpe, Ils ouvrent les fenêtres, mais la guêpe ne s'en va pas, elle tournoie, elle vole. Papa, j'ai trop peur, fais quelque chose. Et le papa, la guêpe passe à la portée du père, il prend la guêpe avec sa main. Ah, merci papa. Et puis il la relâche. Mais papa, pourquoi tu relâches ? Et elle reprend peur. Et le papa, avec une petite larme au coin des yeux, dit, elle te fera plus de mal, j'ai pris son dard. Ça fait mal, une piqûre de guêpe, même pour un papa costaud. J'ai pris sur moi, dit Jésus, la morsure du mal. Victoire sur la mort, la résurrection qui vient mettre le sceau final à l'œuvre de Christ, la mort a été engloutie, c'est un terme biblique, engloutie. La mort a laissé la place à la vie, la mort n'a pas eu le dernier mot sur ma vie. Le tombeau est vide, la mort n'a pas pu retenir le Christ et moi avec lui dans un linceul, Christ est ressuscité. Et cette résurrection change la vie. La mort jetait une ombre sur toute notre existence. La résurrection jette une lumière sur toute notre vie. Et pour cette raison, Paul conclut en disant, c'est pourquoi, mes chers frères, soyez fermes et ne vous laissez pas ébranler, travaillez sans relâche pour le Seigneur, sachant que la peine que vous vous donnez au service du Seigneur n'est jamais inutile ou vide. Et la première conséquence directe de la foi au ressuscité, c'est la fermeté. Devenez ferme ou soyez ferme. Et ce verset, nous le prenons tous, même si on se trouve ébranlé dans des fondations. Soyez ferme. Et on peut traduire de deux manières ce verbe, soyez ferme. Et les deux sont possibles. Soit restez ferme, continuez à être ferme, ne vous relâchez pas, restez fondés sur le terrain solide de l'Évangile. Ou on peut traduire aussi par « devenez ferme », reprenez pied sur le terrain solide de l'Évangile. Il y a Alphonse Maillot qui disait cette belle phrase « on n'est pas ferme d'un coup et pour toujours dans la foi, en l'espérance de la résurrection. On le devient, on y revient ». À la fermeté. Et nos prières pour nous tous ce matin, c'est que nous puissions y revenir à la foi en la résurrection pour reprendre pied sur le socle de l'Évangile. Et la deuxième conséquence est intéressante aussi dans la vie chrétienne, dans la vie des chrétiens de Corinthe, comme celle de Cain, c'est la résurrection renouvelle toute chose. Et ça fait écho au verset précédent quand Paul disait « Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine, elle est vide, elle est comme cette cymbale qui résonne dans 1 Corinthiens 13, elle sonne creux. Mais puisque Christ est ressuscité, notre service ne sonne pas creux, nos activités. Et la résurrection donne du sens à tout notre service, et il faut comprendre au sens large, en mettant en parallèle Colossiens 3, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes. Tout ce que vous faites, votre investissement dans la vie, dans tous les domaines, relationnels, professionnels, pour le prochain, pour témoigner de l'Évangile, toutes les saisons de la vie, parce que Christ est ressuscité et que nous le serons avec lui, Tout ça prend du sens. Quelle que soit la saison de vie que je traverse, ça a du sens parce que Christ est ressuscité. Nos activités, notre service prennent du sens parce que Christ est ressuscité et nous pouvons le faire, comme dit Colossiens 3, 23, de bon cœur. Un cœur rempli d'espérance, un cœur rempli de sens. Oui, Christ est ressuscité et tout prend du sens. Et encore une fois, ce n'est pas notre besoin de sens qui a créé la résurrection. Ce n'est pas la soif, enfin, comme la soif qui créerait le mirage de l'oasis. Non, c'est la réalité d'un Dieu créateur de la vie qui s'est battu pour rétablir la vie, qui a tout fait en Jésus-Christ pour que nous ayons la vie, la vraie, celle qui dure pour l'éternité, qui donne sens à tout ce que nous faisons, à tout ce que nous entreprenons. Nous avons eu une rencontre œcuménique dimanche 19 janvier, le signé que vous avez reçu, ça date de cela. Et si vous regardez au verso, le thème c'était la résurrection, et cette phrase que Jésus prononce devant Marthe, alors que son frère Lazare est mort, en parlant de la résurrection, Jésus lui dit « Et toi, crois-tu cela ?» Ah, c'est une question tellement importante. Et on a fait des petits groupes, et c'était pour savoir qu'est-ce que la foi en la résurrection implique dans votre vie. Des petits groupes, on a essayé de que ça soit vraiment écuménique. Et moi, j'ai vu un groupe, enfin je savais pas, mais j'ai vu un groupe qui était là et je me suis joint à eux. Ils disent on cherche à se mélanger avec les protestants parce que nous on est catholiques. Et donc je suis allé dans votre groupe. Voilà, ça y est, on est mélangés. Et on a eu un super moment. Et le premier à partager sur la question qu'est-ce que ça change dans la vie de croire en la résurrection, et il nous a dit. C'est d'avoir une tête de ressuscité. Et j'ai trouvé ça extraordinaire de la bouche d'un frère catholique. Et on a vécu une communion. Dans tous les groupes, c'était pas pareil, mais nous, c'était vraiment beau. Une tête de ressuscité. Et ça interroge, n'est-ce pas? Quelle tête nous avons? À mon avis, c'était une parole prophétique que ce monsieur nous lançait. Quelle tête je fais, ou plus exactement, est-ce que ça change quelque chose dans ma vie de croire en la résurrection ? La paix de la résurrection, la joie de la résurrection, l'espérance de la résurrection. Alors, quelle tête ça a, un ressuscité ? Eh bien, on va revenir à ma petite phrase publicitaire du début. Si vous ne savez pas quelle tête vous devez avoir, eh bien, à chacun d'inventer la vie qui va avec. Pardon, à chacun d'inventer la tête qui va avec. À chacun d'entre nous d'inventer cette tête qui va avec la foi en la résurrection de Christ et la nôtre. Que le Seigneur ressuscité transforme nos vies et nos têtes. Amen.